Radio Kapi.
Oh, Kapi. Grâce à Mzati à la présentation. Plus de 10 morts, dont des enfants, c'est la conséquence de la colère des militaires FARDC qui tirent à bout portant à Tchomia, à Ituri. Nous en parlons à l'ouverture de ce journal. La fin du dépôt des dossiers de candidature pour l'élection des députés nationaux, c'est dans quelques heures. Le Centre de recherche et d'études sur l'état des droits en Afrique demande à la commission électorale de ne plus prolonger le délai en vue de respecter son calendrier électoral. Richard Kirimba, vice-président de la société civile du territoire de Beni, est notre invité. Il va nous parler du bilan des députés provinciaux et nationaux sortants qu'il qualifie de négatifs. Mesdames et messieurs, bonjour. En Ituri, un militaire en colère tire à bout portant et tue 13 personnes, en majorité des enfants. Ce drame a eu lieu dans la nuit dernière à Tchomia, un centre de négoce situé à près de 60 kilomètres de Bounia. D'après la société civile locale, le soldat n'a pas apprécié l'attitude de sa belle famille qui ne l'a pas informé que son fils malade, acheminé dans une formation médicale à Tchomia, soit mort. Après avoir commis son forfait, l'auteur de ce meurtre s'est enfui. L'administrateur du territoire de Djougou qui séjourne sur place rassure la population que ce militaire est recherché pour qu'il réponde de ses actes devant les instances judiciaires. Nous en parlons avec vous, Pele Kipelamondo. Bonjour.
Bonjour, grâce. C'est hier samedi que ces militaires de l'unité des forces de la force navale est arrivé à Tchomia pour assister au deuil de son enfant. Il venait de Gobu où il est affecté. Selon la société civile, il est spécialement venu à Tchomia non pas pour participer au deuil de son enfant, mais surtout demander des comptes à sa belle famille. Il accuse d'avoir procédé à l'enterrement de son enfant à son absence. Aux environs de 22h30 locales, ces soldats sort son arme et tire premièrement sur son épouse, puis sa belle-mère avant d'en finir avec la grand-mère de ses enfants. Ses deux enfants perdent également la vie après avoir été touchés par balle. Dans sa colère, il ouvre aussi le feu sur d'autres personnes qui se trouvaient sur le lieu. Les bilans dressés par la société civile locale fait état de 13 morts, dont 10 enfants de moins de 10 ans. Leurs corps sont acheminés à Bounia, précise l'administrateur du territoire de Djougou. Le colonel Rufin Mapela indique que les autorités locales se sont investies pour baisser la tension observée ce matin dans cette entité. Les activités socio-économiques qui étaient momentanément paralysées ont repris, apprend-on de sources sur place. En attendant, Gassam Mzati, un avis des recherches est lancé pour retrouver le meurtrier.
Merci à vous, Pele Kipelamondo, pour toutes ces précisions. Autre région, autre drame. Au sud Kivu, 5 enfants, dont 4 d'une même famille, sont morts dans un incendie survenu hier à Bukavu, aux environs d'une heure du matin. Ce drame s'est produit à Tchaï, un quartier populaire de la commune de Bagira. À Bukavu, des voix s'élèvent pour en appeler au sens des responsabilités des uns et des autres afin de stopper ces incendies à répétition. N'est-ce pas, Cynthia Bachizina Bizana?
Les enfants décédés dans cet incendie sont tous âgés de moins de 10 ans. D'après le bourgmestre de Bagira et sur base des témoignages qu'il a recueillis sur place, tout serait parti d'un ménage qui a oublié d'éteindre le feu après une cuisson au bois. Conséquence, 26 maisons en planches décimées les unes après les autres dans ce quartier où les habitations se chevauchent. Il ne se passe pas une semaine sans que des maisons prennent feu dans les trois communes de Bukavu, Patience Bengeya, bourgmestre de la commune de Bagira.
Il y a effectivement la responsabilité de l'État, du fait que ce sont les services étatiques qui distribuent les parcelles, sans tenir compte des zones neutres. Vous voyez, quand on donne une parcelle, à 0 mètre, on donne une autre, et ce sont des maisons en planches. C'est ça la responsabilité des autorités dans les secteurs fonciers. Il y a aussi l'inconscience liée aux activités au sein de la famille. Lorsqu'ils font la cuisine, ils ne tiennent pas compte qu'il s'agit de maisons en planches. Des maisons en planches, c'est presque comme du pétrole. Quand on jette du feu, ça embrase tout. Pour moi, la solution, c'est une prise de conscience de la part des autorités que nous sommes, de la part des habitants aussi.
C'est dans ce contexte que le président du Sénat vient de faire un don de 5 camions anti-incendie à la ville de Bukavu. Cynthia Bachizi, Bukavu, Radio Kapi.
Non loin de là, au Nord Kivu, la vindicte populaire est une pratique courante dans la ville de Goma. Depuis le début de l'année, 15 personnes ont été tuées par la population dans plusieurs quartiers de la ville. Cette problématique était au centre d'un atelier d'échange de 2 jours organisé par l'ONG Ecomoad entre les acteurs de la société civile, les mouvements citoyens et la police en partenariat avec la police de la MONUSCO. Un reportage signé Gabriel Ouaménia.
L'unanimité des participants à cette activité ont convenu que l'augmentation des cas de justice populaire dans la ville de Goma découle d'un côté de l'ignorance de la population sur les méfaits qu'elle représente ces châtiments et de l'autre l'inefficacité des services compétents, affirme le coordonnateur de l'ONG Comoad, Moulimboa Guilin.
On a trouvé que c'est un besoin. La population, elle est ignorante du rôle et responsabilité de la police. Et la police aussi, d'une part, ne joue pas son rôle comme il le faut.
Pour cet activiste des droits humains, la léthargie des services de la police est aussi l'une des causes de la vindicte publique. Daïla Tamasanjiwa.
La non-flexibilité de la police, ils viennent toujours en retard, puis ils disent, bon, cette personne risque de fuir, alors mettons le feu.
Pour Estelle Walaka de la Grâce, actrice de la société civile, la corruption qui gangrène l'appareil judiciaire favorise également la justice populaire.
Du côté appareil judiciaire, il y a trop de corruption. Le magistrat qui a bouffé quelque chose, il manque de faire son travail.
Pour juguler cette pratique, les participants proposent, entre autres solutions, d'équiper la police par des moyens logistiques conséquents, de sanctionner les magistrats véreux, eux, à la population, de présenter les actes répréhensibles pour charger les présumés coupables aux instances judiciaires. Goma, Gabriel Ouaméni, Radio Okapi.
Restons un instant au Nord Kivu, où environ 30 000 nouvelles personnes déplacées fuyant les accrochages entre les rebelles du M23 et les combattants appelés Wazalendo dans les groupements de Bukombo vivent dans la précarité dans leur lieu de refuge en territoire de Rutshuru. Elles sont sans assistance humanitaire. Ces déplacés, dont des écoliers, sont venus des villages de Bukombo, Bishusha et de la localité de Kifulo. Ils ont fui vers Tongo, Lushovu, Kabizo et Bambo. Les autres se sont dirigés sur les axes des groupements Kihindo et Mutanda vers Nyanzale. L'ONG Action d'intégration sociale qui les identifie tire la sonnette d'alarme. Elle demande au gouvernement et aux humanitaires de leur venir en aide. Philemon Munyakazi, responsable de cette ONG, est au micro de Denise Lukeso.
Cette semaine, nous avons reçu plusieurs déplacés venus suite aux accrochages. Ils sont dispersés en grand nombre. Vivent en famille d'accueil, se déplacer, vivent dans une condition désagréable, sans activité, et il y a la famine. Nous, l'action d'intégration sociale, nous essayons de les sensibiliser par rapport aux règles d'hygiène, parce que quand il y a un grand nombre de personnes, il est compliqué pour l'hygiène. Nous demandons au gouvernement congolais d'assurer sa responsabilité et aux organismes philanthropiques de mettre une aide humanitaire d'urgence dans cette zone en assistant ces déplacés, car dans ces déplacés, il y a les enfants, les femmes et aussi les élèves qui n'étudient pas. Nous sollicitons auprès des personnes de bonne foi de venir en aide ces déplacés et d'assister les familles qui les encadrent, parce que ces familles aussi sont dépourvues des moyens. La situation dans les groupements Tongo, il y a le besoin humanitaire d'urgence qui est sollicité en territoire de Rutshuru.
Signalons que des accrochages opposent depuis quelques semaines le M23 aux combattants appelés Wazalendo dans les groupements Bukombo, en chefferie de Bwito. Je l'ai dit dans les titres, c'est aujourd'hui à 16h30, heure locale, que prend fin le dépôt des dossiers de candidature pour l'élection des députés nationaux dans tous les 168 bureaux de réception et traitement des candidatures BRTC à travers le territoire national. La CENI invite par conséquent les candidats indépendants, les partis et regroupements politiques retardataires à déposer leurs dossiers de candidature dans le strict respect du timing leur imparti. Par ailleurs, le Centre de recherche et d'études sur l'état des droits en Afrique, CREDA, encourage la commission électorale à ne plus accorder une nouvelle prolongation du délai de dépôt des candidatures, en vue, dit-elle, de respecter son propre calendrier et surtout d'organiser les élections dans le délai constitutionnel. Dans un communiqué rendu public hier, le CREDA rappelle que seule la tenue des élections dans le délai constitutionnel évitera à la RDC la malheureuse expérience du glissement des mandats politiques et a perturbé l'ordre constitutionnel et accentué la crise de légitimité dans le pays. Autre nouvelle sur Radio Okapi, une vingtaine de leaders religieux ont clôturé vendredi 2 jours d'échanges sur la problématique de la corruption à Bunia. Selon un des responsables de la RCN Justice et Démocratie. L'objectif est d'impliquer ces acteurs dans la lutte contre cette antivaleur qui touche tous les secteurs de la vie jusqu'au lieu de culte. Pendant 2 jours, les participants ont été sensibilisés sur la prise de conscience pour un engagement dans la lutte contre ces fléaux qui gangrènent la société. Un des participants salue cette initiative et promet leur engagement à respecter ces valeurs pour renforcer la lutte contre la corruption. On l'écoute au micro de Neema Magira.
Nous nous sommes engagés à nous unir ensemble comme un seul homme afin d'effectuer la lutte contre la corruption qui nous ronge tous. Les confessions religieuses se sont engagées à pouvoir éduquer à travers les conférences, les ateliers, les enseignements afin de mettre dehors la corruption. Troisièmement, nous sommes décidés de former, de mobiliser à travers les sketchs, des musiques et à travers des actions socio-culturelles afin de construire les valeurs que nous avons perdues. Nous avons eu à nous engager à organiser des structures sur tous les niveaux pour mettre sur pied les actions utiles à mettre dehors les antivaleurs.
Et puis, dans la province du Maniema, l'ONG Programme d'Action pour le Développement Intégré PADI se lance dans l'assainissement de la voirie urbaine à Kindu. Depuis le vendredi 21 juillet, les membres de cette ONG sont à pied d'œuvre dans quelques quartiers de Kindu. Ils débouchent des rigoles et autres caniveaux obstrués par des immondices. Le coordonnateur de PADI parle du souci d'avoir un environnement sain afin de mettre la population à l'abri de certaines maladies liées à la pollution. Radio Kapi Kindu, Florence Kizalunga.
Le boulevard Joseph Kabila vers l'aéroport national de Kindu, après les petits marchés de Tchomba, est le premier endroit à avoir bénéficié de ces travaux d'assainissement. Muni des outils aratoires, le membre des PADI débarrasse caniveaux et autres rigoles des immondices. Les coordonnateurs de cette ONG, Assoumani Samuti Bin Kasanga, en pleine activité comme ses collègues, sensibilisent la population à garder les acteurs propres. C'est pour l'intérêt de nous tous, dit-il.
Nous avons fait ce travail parce que nous avons fait un constat amer. Depuis qu'on avait asphalté ces routes ici, les caniveaux sont toujours bouchés et les gens pensent que les caniveaux et les rigoles sont devenus des poubelles. Si vous jetez un coup d'œil, vous allez trouver les restes de la nourriture jetés dans la rigole. Celui qui mange les bananes, il jette dans la rigole. Donc la rigole est devenue pratiquement une poubelle. Nous remettons presque chaque ménage un sac vide pour qu'on mette les déchets ménagers et nous demandons à la population de ne pas se comporter comme si on était au Moyen-Âge. Les choses changent et la population aussi doit changer sa façon de vivre.
La population environnante salue l'initiative de cette ONG. Elle va jusqu'à plaider que l'autorité urbaine octroie des moyens conséquents à cette organisation pour lui permettre de poursuivre cette action. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Vous le savez, bientôt 3 semaines que les élèves sont en vacances scolaires. Alors, rentrons un tout petit peu à Bunia, dans la province de l'Ituri, où certains parents ont préféré voyager avec leurs enfants vers certaines localités. D'autres ont fait le choix de garder les leurs à la maison pour diverses raisons. Une présence permanente qui, pour certains parents, pose quelques défis liés à leur encadrement. Des adolescents, par exemple, en profitent pour passer beaucoup de temps chez leurs camarades. Les plus petits, eux, ont carrément apprivoisé la télécommande pour suivre leur programme à la télévision, parfois au grand désarroi de leurs parents impuissants. Jean-Claude Lokidile a visité quelques familles. Voici son reportage.
Nous sommes sur l'avenue BAT au quartier Bigot où l'on rencontre ses enfants en pleine partie de football sur un étroit balcon de leur maison. Ils nous racontent comment se déroulent leurs vacances.
On s'amuse, là on est pendant les vacances alors on est obligé de rester à la maison.
Parfois je joue au ballon.
Toi aussi tu joues au foot hein?
Oui, j'ai déjà fini le travail quotidien alors.
À quelques mètres de là, nous trouvons d'autres enfants qui disent comment ils planifient leur temps pour soutenir leurs parents dans diverses tâches.
Je lave les assiettes, je torchonne et je joue.
Paulette Berriou est mère de 5 enfants. Pour elle, toute période de vacances scolaires est un moment propice pour permettre aux enfants d'aérer leur esprit avant la reprise des cours au mois de septembre prochain.
Des fois, on les encadre, on leur donne des livres, ils lisent à la maison un peu et quand ils se décident de jouer, on les laisse aussi jouer. Pour moi, je trouve mieux que les enfants se reposent un peu parce que le cerveau en a besoin.
Théodorine Nobissé, elle aussi mère des familles, sensibilise les autres parents sur la nécessité d'être vigilants et de bien suivre leurs enfants pour éviter les risques de les voir se livrer à la délinquance, ce qui pourrait entraîner diverses conséquences dont la grossesse précoce pour les jeunes filles ou la prise d'alcool ou de chanvre pour les garçons. Bounia Jean-Claude Loki, dit les Radio Kapi.
Bâtir un foyer heureux, c'est le titre d'un nouvel ouvrage mis sur le marché du livre. Son vernissage a eu lieu hier à Bandunduville. Il est écrit par Rovins Matiti, directeur du complexe scolaire Molimba à Bandunduville. Selon lui, la famille est la cellule de base de toute société, mais malheureusement, elle est actuellement confrontée à plusieurs problèmes qui occasionnent des conséquences néfastes en défaveur de la société. Ces livres, renseigne-t-il, donnent un certain nombre de principes qui vont aider les lecteurs à bâtir des foyers heureux. Rovins Matiti explique au micro de Irène Bouma.
Ce sont des familles qui font que les villes existent. Sans la famille, la ville ne peut pas exister. La famille, c'est une cellule de base. Alors, j'ai été touché par plusieurs problèmes que les familles font et qui ont des conséquences parfois néfastes sur les sociétés. Ce qui m'a poussé à écrire ce livre-là, Bâtir un foyer heureux. C'est un livre de 169 pages. Parle de fiançailles, du mariage, la préparation d'un jeune célibataire pour son futur foyer. Et ça donne quelques mots dédiqués aux enfants. Ça parle de l'usage des rapports sexuels dans les couples. Ça parle aussi de plusieurs d'autres principes sur le mariage. Au total, c'est 11 chapitres. C'est un livre à caractère pédagogique. Il instruit et il donne un certain nombre de principes aux gens. Surtout les célibataires, le fiancé, pourquoi pas le marié.
Présente à la cérémonie de vernissage de ses livres, la ministre provinciale du Kwilu en charge du genre, famille et enfants, Marie-Thérèse Manessa, souhaite la bienvenue à ses nouveaux ouvrages. Selon elle, ses livres viennent appuyer les efforts fournis par son ministère pour l'épanouissement des familles.
Actualité internationale.
L'Ukraine a promis des représailles après le tir dans la nuit de plusieurs missiles par les forces russes sur le port d'Odessa. Kiev a par ailleurs accusé la Russie d'avoir détruit la cathédrale d'Odessa, classée par l'UNESCO un crime de guerre.
L'invité.
Il s'agit de Richard Kirimba. Il est vice-président de la société civile du territoire de Beni. Avec lui, nous parlons du bilan des députés provinciaux et nationaux sortants qu'il qualifie de négatif. Sur quels critères se fonde cette structure citoyenne pour justifier son jugement et comment va-t-elle s'y prendre pour pousser les électeurs à voter utile au prochain scrutin? Richard Kirimba répond dans cet entretien accordé à André Kitenge.
Richard Kirimba, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
C'est quoi pour vous un bon candidat ou une bonne candidate?
Oui, en fait, pour le territoire de Beni, nous pensons que le bon candidat, c'est celui qui, un, d'abord est accepté par la population. Donc, quelqu'un qui est accepté dans sa base. Être accepté signifie être de bonne réputation et de bonne moralité. Ça, pour nous, vraiment, c'est l'élément important. Mais aussi, un bon candidat, c'est donc quelqu'un qui a un leadership, qui incarne un leadership fort, donc capable d'influencer les politiques, capable d'influencer d'autres personnes, capable de mener des plaidoyers, quelqu'un qui a un esprit critique, donc aussi quelqu'un qui a un esprit d'initiative et un esprit associatif. Alors nous avons aussi pensé que être un bon candidat pour les territoires de Beni, c'est être à mesure de maintenir le contact avec la population à travers les territoires. Donc, quel que soit le nouvel environnement où on se trouve, il faut maintenir le contact avec les problèmes de la population. Mais il y a aussi l'autre astuce pour être un bon candidat. Nous avons estimé que c'est avoir de l'écoute. Avoir de l'écoute, quelqu'un qui a de l'écoute, quelqu'un qui a l'esprit de redevabilité et aussi être discipliné et actif.
5 ans bientôt que les actuels mandataires ont été élus. Quel bilan la société civile fait-elle de leur mandature? Souvent, on entend la population se plaindre qu'une fois élus, les députés provinciaux et nationaux restent à Goma ou Kinshasa et oublient leur base.
C'est ça, évidemment. C'est un problème sérieux parce que un jour, je me suis posé une question et j'ai posé cette question aux autres. Aller même dans la rue, entrer, poser la question à la population du territoire de Beni, leur demandant de citer les 8 députés qui représentent le territoire de Beni. Et en posant rien que cette petite question, peut-être qu'on va commencer à citer, mais on ne va pas arriver à 8. Quelqu'un va se limiter à 2 ou à 3. Et ça signifie que peut-être sur 8, il y a moins de la moitié qui peuvent avoir gardé le contact avec la population ou peut-être mériter même la confiance de la population de par leur visibilité, de par leur réactivité, de par même l'intervention ou le rôle qu'on attendait des parlementaires. Donc voilà, 5 ans après, on peut dire que moins de 4 sur 8 sont visibles et ont été actifs.
Donc un bilan négatif.
Négatif de manière globale.
En décembre prochain, d'après le calendrier de la CENI, les Congolaises et Congolais iront voter. Quels conseils donnez-vous aux électeurs pour voter utile, comme on dit?
En fait, le grand conseil, c'est ne pas voter parce qu'on nous a amené des miettes. c'est pas sur base de l'argent, sur base des habits, sur base de petits ponts, des caniveaux jetés sur, sur base des travaux d'assainissement à thème de Salongo. Non, il ne faudrait pas que notre population vote sur base de l'argent, sur base des matériels. Il faut que notre population vote sur base de rôle qu'on attend de ces députés. Ce sont des personnes qui doivent nous représenter. Ce sont des personnes qui doivent initier des lois. Ce sont des personnes qui doivent contrôler l'État, l'exécutif. Et ça, c'est pour ceux qui ont représenté déjà, on devrait les évaluer sur base de ça. Comment ils ont initié des lois? Comment ils ont contrôlé? À quel niveau ils ont amené les problèmes de la population pour changer certaines choses au niveau des institutions? Alors, celui-là, celui qui est capable de faire ça, il est un vrai candidat ou un vrai député.
Richard Kérimba, les femmes se plaignent souvent d'être sous-représentées aux instances de prise de décision à tous les niveaux. La société civile est-elle consciente de la faible représentativité des femmes qui représentent quand même 51 voire 52% du corps électoral? Si oui, quelle stratégie comptez-vous mettre en place cette fois-ci pour qu'il y ait plus de femmes élues?
La question est complexe à ce sens où ce sont les partis politiques et les regroupements politiques qui devraient d'abord aligner les femmes. Alors, est-ce qu'en amont, déjà avec les partis politiques et les regroupements politiques, les femmes sont alignées? Et quel type de femme? Parce qu'il s'agit de l'image. L'image du candidat doit être vendue en amont. La sélection de la personne à placer sur la liste devait se passer sur base de l'image, le marketing social, le marketing individuel. Alors si cela n'a pas été fait, il sera difficile de répondre à votre question. Quant à la société civile, nous allons sensibiliser la population sur base des critères qu'il y a ici. Et s'il y a une femme qui remplit des critères que nous avons pensé être nobles pour le choix, alors et que s'il y a des femmes qui se trouvent sur des listes de partis politiques et des femmes qui auraient été choisies sur base de leur capacité, pas sur base de leur beauté, pas sur base de leur acquaintance avec certains patrons des partis politiques, alors nous estimons que donc il y aura des femmes qui pourront répondre à autant de critères.
Richard Kérimba, merci.
C'est moi qui vous remercie énormément.
Le vice-président de la société civile du territoire de Beni était interrogé par André Kitingi. Et c'est la fin de cette édition du journal, coordonnée et supervisée par Pele Kipela Mondo et mise en onde par Jean-Noël Mokondo Yogo. Grâce à Mzati Masanzi était à la présentation. Merci à vous tous qui nous avez suivis et excellente suite des programmes sur la fréquence de la paix.